une présence musicale grâce à Xavier Buffet, que je remercie également. Michel, Francine, à vous.
Michel.
C'est pas ouf.
Oui. C'est...
Aborder l'œuvre de Francine Caron, c'est entrer dans un monde foisonnant. Suivre un itinéraire poétique jalonné par plus de 70 recueils de poèmes. C'est plus d'un demi-siècle d'activités sans doute débordantes, collaboration à de nombreuses revues, réalisation avec des artistes d'ouvrages précieux à tirage limité, et puis aussi l'aventure de la revue NAR qu'elle a dirigée. Pour nous guider, nous ferons appel en priorité, mais pas exclusivement, à l'anthologie bibliographie jubilatoire bilingue, dite Jubile, un livre paru aux éditions Voix tissée en mai de l'an passé et qui marque le jubilé approximatif des débuts en poésie de Francine Caron, ceci vers 1965.
En 65, mais avec 8 ans de tiroir.
Il y a des tiroirs, il y a aussi des tiroirs sans issue. Bon, Francine se dit penseuse libre et mystique hétérodoxe, résolument écologiste et perfectionniste. On pourrait ajouter féministe, mais dans le même esprit d'indépendance.
Oui, oui, oui.
Pour preuve, mais sur le mode plaisant, sa tendance... qui est commune à beaucoup d'écrivaines, auteurs ou autrices féministes. On emploie récemment le mot autrice,
oui,
je l'ai découvert dans Télérama avec abondance.
Oui, l'Académie le permet.
Il est logique d'ailleurs. Il est logique,
l'Académie le permet.
Comme on a compositrice.
Oui, mais ça fait pas loin d'autruche. J'aime pas du tout autrice. L'auteur, ça me semble très bien.
Enfin, fermons la parenthèse.
Autruche.
Je parlais de la tendance à traquer dans la langue des termes révélateurs de l'hégémonie masculine, afin de leur substituer au besoin des néologismes plus ou moins vengeurs et de couleur féminine. Ainsi, le mot « famage » que Francine Caron substitue à « hommage », mot suspect.
Ah non.
Bon.
Je n'utiliserai pas le mot suspect.
Non, mais de toute façon, je dis ça simplement. C'est dit simplement avec humour.
D'accord, très bien.
Bon, les qualificatifs que j'énumérais du portrait de Francine permettent certainement de cerner une personnalité complexe. On ne s'étonnera pas donc de découvrir une poésie portée avant tout par l'esprit de liberté. Liberté vis-à-vis des systèmes de pensée, opposition au dogmatisme, et sur le plan littéraire et artistique, liberté vis-à-vis des écoles, des chapelles, des courants, des mouvements, ces derniers le plus souvent occupés à tourner en rond. Donc une poésie à la prolifération baroque qui n'hésite pas à adopter des styles multiples. Je proposerai donc, pour mieux nous repérer, de choisir quelques l'une des manières dont use Francine Caron pour s'approprier une thématique choisie. J'en ai retenu 5, mais il y en aurait bien d'autres. Commençons par la plus simple, et nommons-la poésie de proximité, ce qui redonnera d'ailleurs un sens un peu plus attrayant au mot proximité, dont on abuse dans le langage sinistre de la communication. Il s'agit bien sûr d'une poésie basée sur la vie quotidienne, sur les choses vues les plus proches. Et on la trouve dans la plaquette « Femme à l'oiseau » et autres enquêtes brèves. Ce sont des déambulations dans Paris qui sont prétexte à divers tableaux où l'intérêt se concentre sur une femme. Et par exemple, ce poème en prose intitulé « La main ».
Le volet roulant s'était relevé en grinçant, un parmi d'autres, mais l'homme avait vu apparaître la main, ou plus exactement, un éclair qui l'avait d'abord intrigué. Bien sûr, c'était une cendre chaude qui s'illuminait encore avant de s'écraser un étage plus bas. Le temps de la griller, la main tenait donc cette première cigarette, tout en ornant la cour qui lui faisait face. On y reconnaissait, parmi tant de nuances de vert, un arbre lyre de plus de 20 mètres de haut. Il montait en donnant un exemple de splendeur aux figuiers écartelés, aux lierres fiévreux, aux lilas beaucoup trop saisonniers. Cela sentait la terre du début de l'automne. L'homme qui se penchait encore, avait conclu immédiatement à une main de femme. Non, ce n'était pas la main fruitée d'un adolescent. Il contemplait la légèreté, la délicate légende qui évoluait sur le paysage, le petit paysage, à moins que, se retirant tout à coup, elle ne fût précédée à nouveau par une fumée. Souvent, le triangle qu'elle formait avec la cigarette variait, tout comme si cette main dessinait. Sèchement, le volet retomba, et l'homme à la fenêtre se prit à rêver à la bouche entrouverte de la femme invisible, évanouie.
Je me permets, dans la mesure où ce texte a été repris, ce qui n'est pas mon habitude. Je ne reprends quasiment pas mes textes, sauf dans les anthologies, quand j'ai le bonheur d'en bénéficier. Mais c'est intéressant, je me permets, par rapport à la cuisine de l'écriture, mais c'est un peu ce que c'est, ce que Michel voudra bien me demander ensuite. Donc, on y reconnaissait parmi tant de nuances de vert, as-tu dit, Colette, et je l'ai transformé parmi tant de nuances d'or vert. Je trouve plus beau. Ensuite, il montait par rapport à l'arbre, et j'ai voulu prendre le terme « le frêne ». Et en dernier, l'homme qui se penchait encore, avait conclu naturellement à une main de femme, avec un méchant hiatus, et en l'occurrence, c'est devenu, tout simplement, l'homme qui se penchait encore, avait évoqué naturellement une main de femme. Je trouve que ça passe mieux et vous n'aurez pas été sans reconnaître vos propres ratures, je suppose. Alors, entre parenthèses, par rapport à ce texte que nous avions prévu comme pouvant être lu par Colette et par Xavier, parce que le mot « l'homme » se retrouve plusieurs fois, on pourrait conclure, même si conclure ou supposer, même si Michel ne trouve peut-être pas qu'il est séant d'en parler là, mais une petite problématique personnelle, à savoir un problème de genre qui s'est posé à moi quand j'étais adolescente. Étais-je un homme, étais-je une femme? Après tout, un artiste. Espérons-le. Si, j'ai écrit à mes tout débuts, en 65, « Ni homme ni femme ne suis, mais ne suis qu'une errance ». J'ai retrouvé ça qui remonte à la nuit des temps. Pardon, Michel.
Non, mais je note en passant que les remarques concernant une retouche du texte justifient le qualificatif de perfectionniste.
Ah, tout à fait.
Même si la perfection est probablement, comme la pureté selon Jankélévitch, quelque chose qu'on n'atteint jamais.
Non.
Bien. Alors, Francine Caron se dit, par ailleurs, elle dit qu'elle se méfie de la poésie narrative. Pourtant, à l'instant, on vient de lire quelque chose qui a tout à fait l'allure d'un récit.
Je vais vous dire ça, il y a très...
Mais il m'apparaît que cette enquête brève prend un ton singulier qui nous éloigne du réalisme de convention au profit du non-dit et d'une part de mystère et d'étrangeté. Si donc cette poésie de proximité qui évolue aux confins de l'anecdote est dans l'œuvre relativement rare, on trouvera en revanche bien des textes qui relèvent de ce qu'on peut appeler poésie des lointains. Et ce qui ne surprend pas, sachant que notre poète a beaucoup voyagé, que certains pays lui sont très chers, l'Espagne en particulier, et avec elle la poésie de Lorca, la poésie de Jean de la Croix. Elle a traversé aussi des contrées qui ne sont pas celles du touriste ordinaire, et elle a rapporté de ses séjours lointains des poèmes qui tiennent à la fois du carnet de voyage et de l'instantané photographique. Voici quelques exemples qui ne cherche peut-être pas tant à dépayser le lecteur sous prétexte d'exotisme que de chercher plutôt à dépayser l'imagination poétique elle-même. Alors, nous allons commencer par des poèmes d'Atlantique. Alors, Atlantique.
Alors, il est très violent et cela fait référence après tout à une naissance à Bas-sur-Mer par les hasards de la fin de la guerre, enfin guerre avec une année de plus puisque mes parents étaient empochés. C'était la poche de Saint-Nazaire. Après tout, Michel aime vivre pas loin de ce qui fut la poche de Royan, n'est-ce pas?
Oui.
Donc avec beaucoup de douleur de vivre, à savoir la mort possible à tout instant, et vraisemblablement dans le corps de ma mère, je devais en subir le contre-coup, c'est-à-dire les bombardements, c'est-à-dire la faim, des parents réduits à regarder l'herbe de leur jardinet pour se dire voilà ce que nous mangerons ce soir. Heureusement, des pêcheurs bretons, des pêcheurs batziens, je devrais dire, pouvaient leur apporter tel ou tel petit crustacé, etc. Bon, mais surtout, je suis née par une tempête d'équinoxe et avec passablement de temps, de 38 ans après, donc, me retrouvant à Bas-sur-Mer avec, pardonnez l'anecdote, voilà une petite anecdote, avec un rhume carabiné, je me suis retrouvée sur les rochers face à l'océan et quasiment immédiatement guérie par les embruns. J'ai quitté Bas-sur-Mer sans la moindre goutte au nez.
Ta présentation a été inaugurée par une grande pluie grésilleuse.
Ah oui, et puis.
Et qui s'est calmée depuis qu'on a commencé.
Tout à fait.
Ça va être en correspondance avec ce texte.
Alors, c'est après que Xavier jouera, peut-être. Hein? Alors, je voudrais peut-être prendre un petit peu de...
Mais je t'avais proposé de l'eau, là. Non, t'as la tienne. Non, très bien.
De carburant. Sur la mer de médailles, la grande mer baroque, vers qui l'on vient de basse terre, des campements de ronces et d'ombelles, des fossés scarifiés, méduses, aux yeux d'émeraudes irritées, trans, paraît, mesure de ton œil humain fragile, elle qui cogne les lichens, creuse carrière, fingal breton de granit, orgue, chanteuse de basalte, d'ambre, elle aventure son bonheur noirci, sa force concassée qu'elle dessine en mâchoire de roche, en tenons jaune-vert de moisissure, poutre carriée plantée sur sable vif. Merveilleuse de nuit avec son sel qui hante, la panique verdâtre qu'elle engendre, mère, de poids et mère à espérance, tour à tour, voleuse de galets de maître, rejetant des pailles mouillées comme paquets de cendres à la schlag, calque de mort sa boue, sa fait silence, sa contracte, sa couche sans cesse et sa jouit, mariée de traînes à dentelles coteleuses, grognant de lames dures et d'assauts ronds, verte de verre, possédée, amoureuse, d'un seul cri, d'un seul serpent à s'évader livide. Congestion de la chair, ô crise, enceintement, ample théâtre qui roule des tapis de ventre, constellé, gonflant de rage, mère magicienne, vie artifice et vrai visage, frappant avec le vent des forges. À quand naissant tes dieux, à quand tes fils, astres, monstres, Pégase, où tes filles de lin, chants, poèmes. Alors j'ai écrit sur les rochers de Bas, donc, et c'était quand même un temps de relative bonasse. Il doit donc y avoir une empreinte de cette grande nuit d'équinoxe qui a pu me marquer jusqu'à 4 ans, parce qu'on m'a exilée à Angers à l'âge de 4 ans. Je n'en ai plus de souvenirs, mais ça a dû être un déchirement, certainement.
Bien. Il s'agissait là d'un voyage qui était en même temps un voyage dans le temps. Et là, nous allons passer en Islande, à la faveur de quelques poèmes.
Ça, c'est Colette. Alors,
il y avait autre chose avant, non?
Non, il y a Wittaf sur nous.
Ça.
Et celui-là,
oui. Ah non, celui-là, c'est...
Si, c'est en Islande.
Ah, c'est
mais
en Islande.
Mais c'est pas dans le même
Non, ah oui, d'accord, pardon.
C'est pas dans le même
c'est
Francine. Un peu isolé.
C'est Francine, celui-là.
C'est toi qui dis
l'Islande, c'est... Ah oui, oui, alors peut-être. Bon, d'accord. Alors, pour changer, avec Xavier, qui nous rapproche de... qui nous donne un son plus doux, plus tendre qu'Atlantique. Oh, et route à faire d'eau. Rutafjordur. Pardonne-moi, je n'ai guère l'accent islandais. C'est une petite miniature, une miniature. Splendeur du fjord, aux villes englouties, qui rêvent dans leur bleu, dans leurs nuages, à une aube éternelle, à un cœur de montagne, comme on se fond dans les terres écrasées. Là, c'est Colette.
Voilà, et donc j'enchaîne par des textes dont le titre
oui,
général
c'est la suite,
est Islande.
Islande, éclat de nuit, et éclat, H-E-K-L-A, qui est le célèbre volcan d'Islande.
Islande, plésiosaur, aux écailles roussies, nuit d'armes que le rouge balafre, chant de planètes éteintes, ou pur fantasme de glacier veillant le bleu. Tu bats en goudron gris, terre-mer, dans ta giclée de cœur solide, nuit mobile de ronces déguisées, jetant son flot d'épines en couronne d'araignes, magma cyclique ou poche de méduse, quand la mort est ton œil crevé d'ogre, le chant de mort, chant d'éboulis acides, dans le chaos premier, de pourpre noir, violine, et de noyer, de pierre, tombe, la lave corde, étuvée, nue, flétrie, la lave délirée par un vulcain dansant, un dieu de forge, illuminant ses antres. Tout sombre dans un long souvenir pétrifié, d'herbes de lave sur un cri de volcan, cendres de feigne, socle de rouille, et les flots gonflent, bouillons de chair neigeuse, Iguzu primitifs, pères en baise. Aux rives du charbon, le pur métal, une fois dégagé du pourri et du sang, pourrait briller du diamant des alliances. Moi, bon, j'ai dit feigne à la place de sphaigne, c'est ça ? Pardon, excusez-moi. Voilà.
Qui est un genre de petite herbe telle que les dessins du rêve.
Et donc ensuite, c'est...
On va atterrir dans l'Utah pour aller voir le Grand Canyon.
Voilà. Alors, attends, le texte
ça. Juste après, Colette. Juste après l'Islande, la cantate, tu tournes.
Je tourne.
Et tu retournes. Une autre page.
Non, je vais faire du crash.
J'espère que j'en ai pas perdu.
Bon,
oui, oui, c'est bon, là, ça va être bon. Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Voilà. Alors, le Grand Canyon, j'avais appelé simplement, comment l'avais-je appelé d'ailleurs, poème du Grand Canyon.
Cantate.
Non, je l'avais appelé tout simplement Poème du Grand Canyon. Et puis, c'est Pierre et Marie Cayol, malheureusement je n'ai pas le livre, qui est de grand format, un petit peu plus grand que le Taj Mahal à ma droite. C'est Pierre et Marie Cayol qui m'ont quasiment imposé la cantate, et j'ai trouvé cette imposition des mains très bienvenue. Pardon. C'est plus réjouissant que nos Atlantiques. Le nom de ce qui nous dépasse et nous sommes vivants face au château d'argile. L'esprit rêve d'un cœur inouï pour ce saisissement, ce rituel d'aube. Pieds nus sur une terre au vent violet, tête sainte de plumes, de nuages, et comme un officiant offrant l'encens. Des levées d'aube en plein midi, quand les canyons brûlent d'ivoire.
Cadavres d'aigle, des bouches apnines te happent en des accès de rouge fauve, de vermillon glacé, de rubis sombre. Un horizon distrait s'achève d'angles, sillonné de corbeaux et de sourires.
Ce qui surgit à l'infini dans le génie des teintes et la joie de créer, de détruire, à l'envi de la pluie, de l'orage, et partir, revenir, passant, fidèle, les yeux reflétant des statues, des arches, des palais des colonnes, le cœur des dieux indiens. Enfin se lèvent les vallées, matrices rouges comme un bel appel au bonheur. La femme avance entre la paix sensible, les pins fragrants, le vol du phénix blanc qui effleure l'exour. Je ne sais pas si on dit, c'est le féminin de Xar, le féminin, décidément, le pluriel de Xar, qui est un village au perché au Maroc. Hein. Xar devient au pluriel Xour, mais je ne sais pas si on dit Xour ou Xour. Est-ce que ce doit être Xour?
Les palais au Maroc?
Oui.
Ah, Xour, Kaf.
Ah, il faut quasiment rajouter une syllabe.
Ah oui.
Xour, oui, mais ça, dans ce cas-là, ça casse ma métrique, alors tant pis, je dis Xour. Mais Xour, ce serait horrible. Hein. Oui, Xour. Merci Mona, en tout cas. Qui effleure les Xour et les craies, presque maître du jour, semeur du ciel. C'était le phénix, on l'a oublié. Un phénix blanc au Maroc, pourquoi pas, hein, l'oiseau bleu des Arabies rêvées. Bon, le Maroc, l'Arabie, on mélange. Bon, bref, c'est une géographie rêvée. Sérénité de l'espace assouvie dans la jouissance dense de la terre. Quelques sommets éclatent encore, aimés. Une hirondelle passe transparente. Restée sans fin, bercée par ses sillons, étincelant sous un bonheur de sève, ou porte de l'éveil ouverte au loin. Sur une orbite creuse de murailles.
Au long des pins, de leur puce d'écorce, rejoindre le dernier soleil qui trempe les falaises. Des cœurs fantômes s'amoncellent, s'allument, brins, réalgar, relief, sur la bande fragile du couchant. Et l'œil se perd entre les améthystes, les violines, les seuils transpercés, vestiges de citadelles premières, tenons rayés du temps. L'abîme a ses rochers de lutte noire, ses crocs, ses calcaires qui dardent quand la nuit vient en déployant ses raies. Une lune de feu hante le paysage, dissèque les palettes et nous rappelle que nous sommes humains, fils des merveilles.
À propos de ces poèmes inspiré par les voyages et donc par la rencontre avec des pays lointains souvent. Quelle est la part, est-ce que la présence à un endroit donné a pu donner lieu à une première ébauche de ces poèmes, ou est-ce que ces poèmes ont été écrits après et donc avec un certain temps de mûrissement et de distance? Ou est-ce que ça dépend des deux aussi, ça peut arriver?
Absolument. Tout à l'heure, là, c'est l'heure d'écriture, c'est l'heure de contemplation, c'est quoi? C'est pas l'heure, ça?
Oui, c'est vrai que voilà quelque chose qui n'a pas été dit, tu peux bien le souligner, Colette. J'ai eu le bonheur de quelques voyages passablement lointains, puisque c'était en somme... ces voyages eurent lieu entre... je regarde mes papiers parce que ma mémoire s'efface. Vous assistez à une présence d'Alzheimer. En fait, c'était entre...
On est loin.
Entre 79 et 85, voilà. En ce qui concerne particulièrement les grands voyages des internationaux, bon, j'en ai fait, je me suis amusée à les compter dans la nuit, une dizaine, à une époque heureuse où on n'interdisait pas trop les petites bouteilles. Et d'autre part, les poèmes plus avant, tout simplement en Europe, ou encore en Bretagne, en Anjou, en Picardie, eurent lieu, et en Égypte, mon premier international, en 74. Donc, on peut dire que j'ai bénéficié sur 12 ans de voyage. Et c'est vrai que la plupart du temps, j'écrivais sur le motif, par exemple, cette cantate pour le Grand Canyon, ou tout au moins simplement poème, a été écrite au fur et à mesure des arrêts des shuttles, vous savez, les fameuses navettes. Il y a 12 parties, peut-être ai-je bénéficié de 12 shuttles, au minimum de 6-7, de 7 heures du matin, qui n'est plus du tout mon heure, puisque c'est l'heure à peu près à laquelle je me couche. Bref, façon Rabot se couchait à 5 heures du matin. Aujourd'hui, je prolongeais jusqu'à 8 heures, ce qui est une petite folie, un dodo de 4 heures, enfin bref. Voilà, on va dire que c'est mon côté rabaldien, entre guillemets. Alors donc, on va dire, 6 navettes d'un lieu à l'autre du Grand Canyon, puisque cela a été mis à notre disposition. Arrêt, je me souviens vaguement, arrêt, attente d'une heure, pendant laquelle j'écrivais avec un bonheur extrême, puisque tous les lieux sont véritablement sublimes. Et ensuite, on reprenait le shuttle et on repartait, etc. Voilà, mais tout a été écrit sur le motif, en effet, si on peut utiliser un langage de peintre. Alors là, si la voix manque, on est perdu, pardon. Alors, pour te répondre très précisément, Michel, parce que je n'ai pas eu le temps, ou pour vous, je ne sais pas.
Ça y est, c'est déjà répondu.
Oui, mais avec deux petits exemples auxquels j'ai repensé. Par rapport au poème qui n'a pas été lu, mais qui est le premier choisi de Venise avec le temps, Venezia col tempo. Je pourrais vous donner 3-4 exemples du travail à la suite. Également, travail qui a été fait avec joie bien longtemps après. Fais-le descendre, ma chère Chantal. Hein?
Comme ça?
Pourquoi pas? Hein? Ah. Voilà. Oui, après tout. Peut-être le faire passer, je ne sais pas. Alors, pour ceux qui veulent écouter ma petite cuisine tout en regardant Chantal, pour Venise, c'est toujours vers toi que je reviens malgré. J'avais écrit l'effleurement d'ardoise. Et en y réfléchissant, c'est devenu l'affleurement. Dans un cas. Enfin bref, c'est à vous d'analyser, là je n'ai plus l'esprit. Bon. Ensuite, par exemple, j'ai trouvé plaisir, l'orage court, oh le doge agenouillé, c'était la première formule le 12 octobre 69, je vois ça, ce qui nous ramène à 50 ans en arrière tout doucement, 49 ans et demi. Bon, bref, l'orage court, Oh, le doge agenouillé, c'est devenu juge le doge agenouillé. Et surtout, j'ai retrouvé, une bonne petite trentaine d'années après, le double sens que je n'avais pas perçu en le transcrivant. Chien roc, tes pieux rongés comme des os. Ou des os, je préfère dire des os, mais c'est vrai qu'en français, bon. Eh oui, mais bon. Ce chien roc, je l'ai transcrit comme en italien San Rocco. Autrement dit, R-O-C-H. Mais en fait, il y a un double sens que je n'avais pas perçu à l'époque. Et j'ai tenu à l'inscrire dans ma révision pour notre jubile. Ce chien roc est le chien de Saint-Roch, sans aucun doute. Mais aussi un chien, sous-entendu, un chien trait d'union qui est un roc qui soutient en même temps la ville de Venise. Et alors voilà, donc... Et la nuit, en ce qui concerne la fin, Venise, immense amour, le noir a dévoré l'ultime, qui est redevenu, par souci de ne pas utiliser des mots que l'on juge discriminants, c'est devenu tout simplement la nuit a dévoré l'ultime, et c'était encore mieux parce qu'il y avait ce rapport entre les deux voyelles, les deux i, qui sont quand même des voyelles froides, même si c'est aussi la voyelle de la vie en français, en latin, en italien, en espagnol, mais bref. Cher Michel, voilà.
Heureusement que tu nous as dit qu'elle était perfectionniste. Hein, parce que... mais, par contre, je m'interroge quand même sur l'intérêt. Ça veut dire que tu renies pas quand même tes premières versions, puisque tu éprouves le besoin de nous les donner successivement.
Alors, il y en a qui sont barrés rageusement, des poèmes barrés rageusement, parce que ça ne vaut pas un sou.
Que tu renies complètement.
Oui, et là, quand même, donc je fais partie des crayons rouges, parce que, comme vous pouvez le voir, peut-être il y a pas mal de choses. Autocritiquer parce que ça ne rentre plus non plus dans la logique même du poème qui s'impose à nous comme un personnage de roman parfois pour d'autres.
La logique en poésie, moi je...
Ah mais c'est une logique, pas. C'est une logique spéciale.
En tout cas, il faut signaler que dans l'anthologie Bibliojubile, on a d'innombrables exemples de corrections. Autocorrection ou correction suggérée par des amis qui ont lu ou qui ont... Voilà, donc là-dessus, vous aurez des informations totalement exhaustives de ce point de vue.
Voilà. Et j'ai pas de scrupules parce que Marguerite Duras et d'autres... etc. Pardon, Michel.
Alors, après ces voyages... Voici un thème central dans l'œuvre de Francine Caron, l'amour. L'amour dans toute sa dimension charnelle, mais accompagné de l'aura quasi mystique d'une expérience spirituelle, d'une quête intérieure de l'être humain, où l'être humain entre en résonance avec le cosmos, avec le mystère du temps. On pourrait donc parler d'une poésie de l'âme et de l'amour. Je crois qu'il faut signaler que passionnée d'astrologie et curieuse de spiritualités diverses, Francine Caron a effectivement réuni ses diverses passions dans ce poème qui s'intitule L'année d'amour. C'est un ensemble de 12 fois 30 petits fragments poétiques qui s'ouvrent à une double lecture. On peut le lire comme un poème d'amour, on peut le lire comme un zodiaque poétique qui suivrait les 12 signes de l'astrologie. Comme si les astres jouaient de leur pouvoir d'abstraction sur les mots comme sur les êtres. Et pour ce livre, Luc Bérimont a écrit une très belle préface qui souligne cette double dimension de l'année d'amour. J'aimerais vous lire les deux derniers paragraphes de cette préface. L'expérience amoureuse, comme toute descente aux abysses, rend ceux qu'elle requiert étrangers et sourds à tout ce qui n'est pas le centre et le dépassement. Elle est l'emmurement et la brèche. Elle est l'énigme vivante, blottie à même la peau, prête à dévorer qui la porte. Il serait vain de vouloir dissocier l'expérience mystique de celle-ci. Il s'agit d'un seul et même chemin vers un même cloître où poussent les mêmes fruits de la passion. L'enlacement amoureux permet à celle qui parle de s'unir aux forces circulantes. Il lui donne la mesure démesurée de ce qu'elle est vraiment. La poésie se fait épreuve, révélateur, ordalie. Ici tombe le vêtement prétexte du sentiment pour laisser place à l'aveuglante clarté. Brûlure, oui, mais brûlure du fin fond de l'être, brûlure panique, où le battement, la danse, la fureur, la tendresse, le feu, les cris, les larmes s'unissent pour la célébration du grand rite initial de l'homme et de la femme, enfin regagnés l'un par l'autre dans le dur désir de durer. Voilà donc une partie de cette préface de Luc Bérimont, un poète dont nous pouvons saluer le souvenir, car il a été extrêmement attentif aux poètes qui étaient jeunes, disons au début des années 70, et que beaucoup d'entre nous ont connu et dont ils ont apprécié la générosité.
Il était né en 1916, il me semble, Luc. Oui. Hein. Et il nous a quittés en 82, si je ne me trompe pas.
Oui,
tout à fait. Oui. Alors, je voudrais dire ici, et retomber platement sur terre, quoique le texte nous y amène.
C'est toi qui le lis ? C'est toi qui lis ?
Oui, oui.
Ah bon ?
Parce que tu as pensé lire quelque chose.
Non, c'est pas grave. Je l'ai dans mes textes, mais c'est pas grave.
C'est-à-dire que je mange tout.
Oui, c'est une extrémiste, j'ai compris.
Très une extrémiste. Oui, je... Comment dirais-je ? Là, il n'est pas question d'astrologie céleste, je voudrais le dire, pour ceux qui n'apprécieraient pas du tout le rapport supposé, le rapport, je devrais dire, même plus que la coïncidence, l'influence des astres sur nous. Donc là, je retombe complètement sur terre, et ça n'est pas plat, parce que c'était la très belle vision des anciens. On retrouve Babylone en l'occurrence et surtout les Égyptiens. Et je voudrais dire que si je suis forcément marquée par le judéo-christianisme, je suis quand même aussi beaucoup une fille de la latinité, de la grécité et de l'Égypte ancienne. Bon, et en l'occurrence. Certains nombres d'entre vous doivent savoir que en ce qui concerne l'ordre des signes, il a été bâti sur le corps humain. Autrement dit, au bélier, avec une alternance, j'ai vu ça dans un bouquin sur les hiéroglyphes égyptiens, avec une alternance, c'est le masculin qui commence, mais c'est le féminin qui termine, et qui est en quelque sorte l'avant premier, ensuite, puisque une théorie du cycle, des cycles infinis. Hein, nous savons maintenant que la théorie des cycles est certainement valable dans une notion de spirale, mais ça c'est une autre histoire. Enfin, en ce qui concerne nos Égyptiens, etc., nous avons donc cette alternance du masculin et du féminin, qui n'a pas été traduite dans le langage qui leur est donné en Europe, par exemple, que je sache, tout au moins pour les langues qui ont le masculin et le féminin. Autrement dit, Au bélier, c'est-à-dire à l'esprit, à l'idée, enfin à l'idée, la tête et l'idée, au taureau que l'on devrait appeler la vache, un mot qui peut être très souvent critique en français et qui ne l'est pas du tout dans divers imaginaires anciens, voire aussi bien d'ailleurs l'Inde. Bref, la vache correspond ce que nous appelons le taureau, c'est-à-dire la langue et la gorge. Ensuite, les gémeaux, là on retrouve plutôt d'ailleurs l'androgyne, on va l'associer au masculin, premier signe d'air, comme les autres ont été premier signe de feu, premier signe de terre, premier signe d'air, donc les gémeaux. Ensuite, et tout ceci courant, autrement dit, ce sont des cercles quasiment sans fin, se poursuivant, se complétant l'un l'autre. Ensuite, après le taureau, nous trouvons le cancer, que nous devrions appeler l'écrevisse d'ailleurs, qui est associé à l'estomac, à la sensibilité, etc. Vous voyez la suite. Pour arriver, ceux qui seraient intéressés par le déroulé pourraient me le demander à la fin, sinon non. Et nous nous arrêtons aux deux derniers, c'est-à-dire au Verseau qui correspond à la cheville, sachant que le Verseau signifie verser l'eau de la connaissance, autrement dit c'est un signe d'air et pas du tout un signe d'eau. Le dernier signe d'eau, celui-là étant les poissons que l'on devrait nommer la sirène et qui correspond aux pieds. Pourquoi un signe d'eau après toutes les parties de nos corps qui peuvent exsuder, pour bien parler, il est exact que la voûte plantaire est très, comment dit-on, sudatrice, c'est ça. Donc les anciens ont fait le rapport probablement avec cette eau particulière de notre corps qui pourtant touche à la terre, etc., etc., et qui d'autre part s'élance d'une manière particulière parce que le Verseau, c'est en quelque sorte le cosmos, les vaisseaux cosmiques actuels. Et en ce qui concerne les poissons ou la fameuse sirène, là c'est la plongée dans l'inouï, dans tout ce que nous ne savons pas, pour d'aucuns le divin et pour d'autres le néant, les grands fonds abyssaux, les grands fonds marins, pardonnez-moi. Et dans tout cela se trouve aussi un alphabet, à savoir que le fameux, en remontant à la tête, au bélier, qui se dit en latin Aries, donc hein, c'est le A, le signe A. Quelqu'un qui s'appelle Alain et qui est bélier est particulièrement bien situé dans, dans la chose. Et lorsque nous en arrivons, en déroulant le corps au huitième signe, le chiffre 8, qui est assez important, je crois aussi parmi les chiffres hébraïques, le 8 est important, bonne chose. Il me faudrait replonger dans la Kabbale et là je n'ai pas le temps, mais il faudra absolument que je le fasse avant ma disparition. Donc à la fois novembre, le 8, le scorpion qui correspond au sexe dans le corps, et ce sont par hasard deux S, ce qui n'est pas le cas pour tous, mais enfin le mot, il paraît que le mot scorpios en grec est donc venant de je ne sais quel mot égyptien. Le mot scorpio, c'est l'un des plus anciens de nos civilisations connues. Mystère. Alors donc, c'est Michel qui a choisi, j'aurais fait probablement...
Oui, très égoïstement, parce que je suis moi-même du signe du scorpion.
Du voilà. 19 novembre.
Donc les astres ont eu quand même un effet.
Et raison de Michel.
T'aurais pu choisir le signe de Francine, mais bon...
Nous sommes des vierges très sages.
Oui, tu vois.
Ce n'était peut-être pas tout à fait sûr. Bon, il m'aurait fallu, dans le fond, mais il aurait fallu que nous alternions, nous trois femmes, Catherine, Colette. Et cependant, un homme parle aussi, puisque ça commence par habiter une femme. C'est un dialogue d'un homme caché, avec un homme caché. Bon, je dois dire que, naturellement, comme dans toutes les passions, j'ai perdu cet homme. Il m'a quitté avec ma mère en 89. C'était une année absolument épouvantable de laquelle je me suis sortie, d'où j'ai émergé grâce à la poésie, sans médicament aucun. Mais enfin, c'est un homme qui m'a remis quand même pendant un temps dans ma peau de femme. Bref, et je lui en serai à jamais reconnaissant. C'était un forgeron d'ailleurs, comme mes anciens, comme beaucoup de mes anciens. La moitié de ma famille est bourgeoise et je ne l'ai quasiment jamais fréquenté, par les hasards, les hasards ou pas hasards de la vie. Et l'autre moitié est terrestre, on va dire, pour ne pas dire paysanne ou campagnarde, puisque c'est mal vu, à Paris ou ailleurs. Bon, pardonnez-moi pour ce très long prologue, mais il faut quand même un petit peu situer. Bon, c'est parfois un peu corsé, j'aurais peut-être des sagesses de vierge à supprimer, seul Michel pourra le savoir. Alors, ça se présente effectivement des séries de trois, mais il y a un mot, à part triptyque, petit triptyque. Et à la limite, on peut lire chacun pour lui-même, ou on peut lire la suite parce que ça se tient aussi. Et ça présente la particularité, puisque comme Michel l'a dit, le livre, comme un cercle, est composé de 30...
De 12 fois 30.
12 fois 30, c'est ça, 360 égales, voilà, c'est ça.
Ça fait pas tout à fait une année, mais enfin,
il faut faire des petits arrangements, comme dans le calendrier révolutionnaire ou autre, enfin bon. Mais on arrive par exemple à avoir un 30 février, ce qui est quand même un petit peu original, mais je dois dire que je m'en suis enchantée. Bon, enfin, le morceau, la partie du scorpion est la plus aiguë, la plus crue, la plus âpre, etc. Donc je me réserve le droit de supprimer de temps en temps ce que la sagesse venue par l'âge oblige. Ce à quoi la sagesse venue par l'âge oblige, ça y est. Habiter une femme dans son éternité de grotte, sexe qui cave à son illuminante nuit. Tu me pénètres, j'entre, heureuse chair d'affond creusée, cette nécessité du cri quand tu prends souffle là. À même avec la terre l'enclume creuse, où ne gît pas d'autre chemin. Le lieu du corps que fouille l'ordre de tendresse où l'on ne peut aller plus loin, cet enfouissement est nul, n'osant nous démêler. Bien connaître la mort quand elle avance bas, chargée de tout le corps à éclater souvent, parcourir ce couloir. Happé, voici le souffle du dedans, crise syncopée de crypte, jouissance où expire et respire le sexe, coucher avec la vie, être elle et s'engloutir. Vulve qui se souvient, qui se soulève encore à boucle, la contraction des portes, la bête à jouir agile et la reconnaissance de la peau, muscle secret qui se prend pour un cœur, respirer jusqu'au seuil du sang, rythmé sur l'univers. Repu le ventre au repas de la vie richement attablée, comme une bouche qui prend tout, la bouche rouge des ancêtres. Bonheur matriciel des muqueuses à savourer la vie liquide. Je suis la biche que tu traques, et que tu masques morte doucement. Je n'en finirai pas de toi, toi qui me veux, m'abandonnant jusqu'à l'esprit. Feu tamisé du ciel et sur les eaux le silence d'argent. Quelques dernières feuilles prêtes à indiquer le chemin. Amour qui nous vivons au lucernaire. Ce qu'il y a en toi de lampe parfois, tu reconnais jusqu'aux caresses de la terre. Calciner du dedans, interroger l'eau de ta bouche. Être happé dans les couches profondes de mon corps où règne rayonnante l'énergie. Te sentir vivre là, dans la déserte flamboyante, tenir la clé.
Oui, t'as supprimé ce qui concernait le masculin, finalement.
Oui, mais... enfin, mais, oui, mais oui. Mais ce n'est pas pour ça, c'est parce que le mot sperme m'a un petit peu gênée.
Ah oui, non, mais j'ai remarqué qu'il apparaît deux fois et deux fois.
Je l'ai dit quand même.
Bah, tu viens de le dire à l'instant.
Bon.
On va pas revenir là-dessus.
Enfin, on se permettra de l'oublier.
Non, mais ça fait un peu clinique, brusquement. Ah ben, j'aime bien entendre, ah bon, très bien. Merci.
Non, enfin, tout ça.
Un seul suffit parce qu'elle avait moins deux.
On peut aussi procéder par allusion. Hein. C'est tout, ça fait partie aussi de l'art poétique.
Oui, mais c'est un très beau mot grec, de toute manière.
Bon, nous avons évoqué les voyages en pays proches ou lointains, mais Francine Caron visite également avec prédilection les musées et les expositions. La peinture, les arts en général, occupent une place privilégiée dans son univers et donc dans ses écrits. La poésie se fait alors poésie du visible et de l'invisible. Car toute œuvre d'art invite à nous à voir aussi hors cadre, à laisser émerger ce qui est derrière l'image. À travers les mots, un monde secret peut surgir du simple regard, d'où de nombreux poèmes nés de l'admiration des maîtres du passé ou de la confrontation, par exemple, avec les trésors antiques du Grand Louvre. La forme brève dans ce domaine s'impose. Pas de commentaires développés, mais des impressions fugitives, des concrétions verbales nées de la fascination d'un tableau, des éclats poétiques où la sonorité des mots tente de restituer la spontanéité de la main qui tenait le crayon ou le pinceau, suggérant aussi la part d'invisible comme une chambre d'écho où l'imagination pourrait prolonger l'image fixée. Alors, on a, je crois, d'abord deux poèmes intitulés « Deux entre deux Rembrandt ».
Ah oui.
C'est Francine.
Il y en a un qui est écrit au Louvre et l'autre à New York, mais c'est pareil, il y a 38 ans, peut-être. Sauf que Rembrandt a disparu. Ce sont des textes d'interrogation sur la vieillesse et sur l'âge. Et il m'a semblé véritablement, enfin j'ai amélioré le poème parce que c'était sortant de nuit, mais il m'a semblé que le mot Rembrandt commandait la forme du gérondif qui est la première. Et toutes les nasales, on dit nasales pour les en, un, on, etc.
Bah oui.
Mais le mot est tellement laid, j'y repensais hier. J'aime pas du tout nasal. Non, ça va pas du tout.
Moi, j'aime pas gérondif.
Oui, j'aime pas. Non, je n'aime pas trop gérondif, mais j'aime encore moins nasal. Passons. Donc, le premier est du Louvre et le deuxième de à New York, mais c'était la même pensée. C'était donc en 80, 83, quelque chose comme ça. Entre deux Rembrandt avec un jeu de mots, puisque ça peut être aussi entre dans le sens de grotte de Rembrandt. Donc Rembrandt m'a semblé en imposer tous ces sons. Sortant du temps, Rembrandt demande à l'œil ce qu'il est devenu, s'étonne. Et sa mémoire enfante une chair moite molle, un grand miroir de mort bardé de cuir, déjà couvert d'un linge blanc. Les larmes aux yeux, tout nous regarde depuis l'âtre, voilé d'amour inquiet, grand maître d'âme, qui nous force à la nôtre dans un harnais de peur tiédi.
Bon, et le...
Alors, le suivant, Goya, c'est Catherine.
Alors, Catherine Jarin. Catherine se lève, forcément.
Goya, Goya, c'est ça?
Oui. Alors, il a été écrit au musée du Prado, vraiment complètement sur le motif, face à toute la série de ce qu'on appelle la Quinta du Sourd. Et qui est terrible, d'ailleurs.
Le rire même, si vole à coups de langue, le sens de l'invisible que transperce la nuit, où brûle un sabbat roux, contre-initié, déchets de crâne, catacombes verdâtres, forêts de calottes forées, et ce pouvoir, savoir, d'étoiles toutes, diurnes échappées des cadres noirs de bois. Sale, la tache humaine se diffuse, les rancœurs, les rictus et les lèpres. Le carnaval des peurs aveugles, des bêlants et des endormis. Exorciser la pourriture en l'écrasant du secret de la peindre. Briser la jungle de la haine. Les faux Christ qui tuent jusqu'au remords. Tandis que l'hydropique nonne passe en deuil sous la montagne hachée de sources. Dis-moi ce que tu vois. Un paradis? Là-bas, près des parcs livides, on vit au-delà de la lune. Un rocher de visage se lève, pèlerinage de la mort, en route, où chaque chair se déprend comme terre déblayée en lambeaux de vieux roses. L'enfer? Sous un masque de femme, Judith bave le sang, et Saturne évolue comme une bête, bille d'œil sous perruque filasse, clown sur la viande humaine à déchirer. Regarde, le chien aux yeux cernés, blanchi, crevé, le chien témoin respire encore.
Alors, nous avons aussi sur la même thématique le recueil Grand Louvre, qui est un ensemble de notes brèves, d'images croquées sur le vif, avec des effets de zoom sur tel détail. Ce petit livre a la particularité d'être édité par Rüdiger Fischer, dont beaucoup se souviennent sans doute. D'avoir été édité en édition bilingue, français et allemand, ce qui était la marque de fabrique donc de ces éditions en forêt, Imwald. Après bien des poètes renommés, donc Francine Caron ne pouvait que se réjouir de cette parution bilingue. Puisqu'elle est toujours soucieuse de voyager aussi de langue, d'une langue à une autre. Comme en témoigne dans l'anthologie Jubile, la traduction anglaise de tous les poèmes retenus, en anglais, la traduction anglaise donc de tous les poèmes retenus.
Par Basia Miller, qui, étant déjà venue pour la Sorbonne il y a 2 mois, bon, n'habite quand même pas, elle habite dans le Nouveau-Mexique, elle ne peut pas revenir en France tous les 2 mois, hélas. Pardonne-moi un tout petit instant pour un tout petit arrêt sur image. Christiane Mestaz, donc, je tiens à saluer Jean-Paul parce que j'ai vu dans la nuit encore, j'ai revu, parce que le recueil date déjà de 2010, que Jean-Paul, par exemple, a publié chez Rudiger longtemps après. Salut à toi et merci aussi d'être venu comme vous tous. Pardon, cher Michel.
Donc voici un petit choix, un parcours du Grand Louvre, en somme, sous la conduite de notre guide poète.
Oui, alors là, on se partage comment ?
Ah, on se partage ?
Oui, alors tu voulais tout, lis tout si tu veux. Ah,
non, bah, on peut alterner.
On peut prendre les premiers.
On peut alterner.
On alterne.
Ou alors, oui, un poème, et puis, parce qu'il y a aussi les antiquités.
Oui, c'est vrai que là, on n'a pas.
Il y a deux types de textes, la deuxième page.
Tu lis Vénus, hein ?
Ah oui, alors,
le Cranach qui s'appelle « Vénus debout dans un paysage » et qui est une dame pute innocente, un clin d'œil à Françoise, qui a écrit un très, très étonnant poème sur les dames putes. Comment ?
Sur les dames putes.
Tu as écrit un très beau texte. Donc, clin d'œil... à François Geyer. Oui, d'autant plus que j'avais écrit pute allemande. Cranach, c'est une simplification un petit peu nulle. Donc, j'ai barré mon allemand, surtout pour le malheureux Rudiger, et c'est devenu pute innocente, hein, pour Rudiger. Et d'ailleurs, il était question de la mettre là, la Cranach, et puis, trop pudique, il n'a pas voulu. Il m'a dit, oh, on ne peut pas en Allemagne, on ne peut pas.
Bon, le poème lui-même est très bref, je crois.
Alors, tout est très bref.
Ah oui.
Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, vous êtes là jusqu'à minuit.
Parce que les commentaires... Bon, allez, vas-y.
Non, c'est toi.
Ah bah, tu viens d'annoncer, je croyais.
Ah bah, bon, d'accord. Raison de plus pour que ce
alors,
soit toi.
Alors, Vénus infante dans un paysage de voile, pute innocente, maîtrisée d'un collier, qui nous offre le sol où rouler... les grâces du nombril, de l'ongle et des tétons, le reposoir féerique des eaux.
Alors je supprime le Jacques-Louis David. Philippe de Champaigne, portrait d'homme. Et quand je l'ai écrit en 82, alors portrait d'homme, c'était Antoine Arnaud d'Andilly, c'est-à-dire ces fameux jansénistes. C'est très curieux qu'il ait été supprimé du... Ce doit être un jésuite qui a fait supprimer la mention, probablement. Vous savez, la querelle des jésuites et des jansénistes. Pour déborder du cadre, dans la totale liberté de l'art, serait-ce qu'en poussant la porte, presque anxieux de vieillesse... Difficile à dire, Catherine, tu l'aurais bien dit. Presque anxieux de vieillesse. Oui, ou alors il faut y aller, le dire très lentement.
Mais tu le dis très bien, je vois pourquoi tu t'interromps.
Bah, ouais. Et du regard exact. J'ai beaucoup retravaillé celui-là. Alors là, ce sera une réponse peut-être plus tard à Michel. À toi, le Delacroix, cher.
Alors, Delacroix, c'est la mort de Sardanapale. Orgie de rouge et jaune trame atténuée de velours, comme un trophée de mort... à l'abîme de l'œil destrié sur l'éternité mise en scène.
Alors deux Georges de la Tour qui intéressent Michel, raison pour laquelle aussi il a retenu, une confrontation entre deux mondes, ce qu'on appelait autrefois le siècle, c'est-à-dire la vie profane, et la vie religieuse, tout au moins la vie de la Madeleine à la Veilleuse. Donc d'un côté les tricheurs, et d'autre part la Madeleine à la Veilleuse, entre quatre et quatre vers. Jeu de l'œil, art de cartes, et truc et troc sordide, comédie d'ombre, avant que révélée, la lumière trigone, aiguë comme un couteau anti-matière.
Et donc, toujours de la Tour, Saint-Sébastien soigné par Saint-Irène, plastique d'ombre, aux morts torrides, une déploration s'élève et des plans se modèlent sans vitrail. L'outre-tombe choisit 5 couleurs et recompose la lumière en larmes.
Ah, alors, le Goya qui accompagnait en prologue celui qui a été lu par Catherine, à savoir celui de la maison du sourd. Il était donc précédé par celui-ci. La comtesse, il est donc au Louvre, en pied, un grand tableau, contrairement à certains autres à vous présenter, dans le petit Cranach, par exemple. La comtesse del Carpio, marquise de la Solana. Veuve d'un éclat gris, la Solana te hante. L'éventail abaissé dit la résignation. L'anémie blême aux mains de caoutchouc. La transparence en noir à règne.
Et sur le Christ en croix du Ricot, chère citrine de mort, émue blanche, où le ciel se déchire, abominant, faisant théâtre d'un cadavre farci, debout avant l'ordure passagère.
L'ordure passagère. Donc, Michel sait que je fais partie de ceux qui croient en la mort de la mort. La parabole des aveugles,
c'est quoi la mort de la mort? Tu peux nous expliquer?
Ah, je n'ai pas dit pour autant la résurrection ni la métempsychose, mais je ne crois absolument pas à la mort, point final. Voilà, tout est dit. À part ça, je n'en sais justement rien. J'aimerais la résurrection de mon bien-aimé, etc., etc. Quand sais-je? Quand savons-nous? Rien. Enfin, ou peu.
Il est dans la pensée et dans la mémoire.
Voilà, il vit déjà dans cette petite mémoire. Attribuer à Pierre Bruegel la parabole des aveugles. Ça, c'est un poème de 2008, parce que j'en ai supprimé quelques-uns. La première édition a été faite par une personne de...
Un éditeur,
peut-être? Un éditeur-graveur, voilà, c'est ça. Un éditeur-graveur de Cholet, 49 Maine-et-Loire, avec une préface de Trémois, lequel Trémois avait donc permis que je reproduise l'une de ses œuvres. Versets faussés au pays qui vivrait encore, prairies, vaches, rivières, clochers, grands arbres. Présomptueux se précipitent les aveugles, moutons en catastrophe, grains après grains au trébuchet.
Et sur le Saint-Sébastien de Mantegna, camailleux bleu, lardé de traits légers en de multiples croix sur l'horizon, un corps parfait s'immole à la colonne. Le peintre entaille, sculpteur, hache la pierre, module dérision au creux des lèvres et compare la mort aux pieds moussus en blocs de marbre ou de chair létifère.
On passe directement à la mort sentimentale, il me semble.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Hein. C'est ça. Ce sont des choix de Michel. Je n'aurais pas pris forcément les mêmes. Bon, et d'autre part, j'ai appris que pour le photocopieur, il avait pris automatiquement.
Ah ben oui.
Là, par rapport à l'esprit pratique s'impose. C'est une question que je me pose parce que, comme vous l'avez remarqué, c'est un dialogue avec les œuvres. Il y a une telle présence, et la présence aussi chez mes artistes, hein, ma Chantal, etc. Bon, ma Chantal Denis. Je fais très peu d'histoire de l'art, pour tout dire. Et là, ce ne sont pas seulement les tableaux. La deuxième partie, soit dit en passant aussi, est consacrée et dédiée à des sculptures, etc. Plus particulièrement des sculptures, des, des, des statues. Et là, je me pose la question, cette mort Saint-Innocent du XVIe, si impressionnante, je pense qu'elle devait être placée devant le cimetière des Innocents aux Halles, autrefois, je me demande. Enfin, c'est assez terrible, c'est un squelette. Il y a une faux, je ne me rappelle plus, mais la faux, là, on retrouve la faux comme les bras de la victoire de Samothrace, autrement dit. Théâtre de mort creuse, à l'éventail cordé du pied, au diaphragme de crotte entr'ouverte le brèche-dent obscène. Que me trouve sa place entre les hommes, menant le bal aux libations des os, au décour des orbites, aux draperies suintantes des organes.
Ensuite, donc, c'est tombeau de Filippo et Vierge à l'enfant. Pénitent noir de la mort immortelle, masqué d'ombre, harnaché d'écussons, en l'ultime apparat de la matière, devant des vierges, s'exclamant à l'enfant.
Mais dans la même salle, c'est très curieux de voir. Vous revoyez ce tombeau de Filippo qui est comme une maison portée, hein, portée par six écuyers, chevaliers, etc. Et dans la même salle, ces vierges à l'enfant, d'un bonheur extrême, s'exclamant comme les vierges bourguignonnes souvent, etc. Donc là, étonnant. Bref, pardon. Et ensuite, deux Vénus de Milo. Mais j'ai commencé...
La même, mais de face ou de dos.
Oui, parce qu'il y en a qu'une.
De face ou de dos, c'est ça. Je préfère celle de dos, d'ailleurs. Ah. Enfin bon. Et j'ai commencé par celle de dos.
Allez, vas-y.
Et chose curieuse, dans toute ma série du Louvre, qui a commencé en février 81 et qui s'est achevée en février 82, c'est celui-là qui est le dernier... par moi ou par mes ombres ou par mes quelques lumières écrit la force femme naît de toi des hanches comme des racines et le mûrir des seins sous l'envergure de la tête quel geste à ses bras superflus près de la volonté tangible du regard
et donc la Vénus de dos
qui est celle par laquelle j'ai commencé, mais peu importe, à écrire.
Ah, d'accord. Mm-hmm. Courbe de toi à la beauté rythmée, grande Aphrodite aux hanches revêtues, et plus nue que les grâces, et plus riche de blé, revenant lentement vers la terre.
Il nous reste...
Après, c'est Ergastine dans le cortège des
Les Ergastines, alors je ne sais plus ce que veut dire Ergastine. Dans le cortège des Panathénées, vous le voyez aussi, ces drapés, ces plis extraordinaires. Les Ergastines sont des jeunes filles, des prêtresses, des jeunes femmes. Dans le cortège des Panathénées, les Panathénées étaient donc les fêtes de la ville d'Athènes en honneur d'Athéna. Chute des vêtements au lin de lignes souples, entrelacs de périodes verticales, équilibrés d'horizons balancés, où prendre sa mesure au mépris des yeux creux.
Sur la Diane d'Anet, XVIe siècle, de la femme à la bête, la beauté des semblables, des corps à la couronne, du poil velours jusqu'à la peau, le mufle devenu menton, profil, découpe, l'oreille recueillie en un bijou, et le corps droit, en fort éclose, issu du jeu éternel de la chair. Le sarcophage, maintenant.
Ce sont des sarcophages. Je n'aime pas trop... cher Michel, je n'aime pas trop mes sarcophages égyptiens. Là.
Bon, on les
Phéniciens, on les laisse tomber.
On laisse tomber les sarcophages, ça va peut-être les faire.
C'est dommage parce que je l'ai en cité des quelques
des
mots après.
Ah, bah alors je vais le lire.
Ça pas de bol. Hein.
Enfin, suite gauche, non, moi.
Ah, je préfère ce. Ah oui, d'accord, bon, bah tant pis.
Pardon. Oui, la musique après, juste après.
Alors, on n'a pas prévu de musique pour
si,
le Louvre.
On a prévu après, avant Shoah.
Avant Shoah.
Donc,
oui, oui, on n'en a pas prévu pour le Louvre.
Oui, on y est presque.
Mais la joie arrive.
Oui, t'interviens.
Bon, alors, je n'aime pas tellement, celui-là.
Oui. Il est très bref, le temps d'en
parler. Ah, bah, ils sont toujours.
Lequel tu veux lire tu veux,
alors,
on peut alterner, on peut inverser. Si
ah, bah, lis-le, alors, non, cher.
Gauche, parce que j'allais justement y faire allusion.
Lis-le, chère Colette, alors.
Gisant, morts en attente, nos visages, ayant confié leurs restes à de la pierre, peuplent nos rêveries de crypte.
Voilà, comme ça j'enchaîne.
Et puis le sarcophage étrusque des époux. Voilà. Non, laisse tomber.
Non, bah, puisqu'il était question de le supprimer.
Ah non, pas lui.
Tu voulais supprimer celui-ci.
Mais si, justement.
Ah, pardon. Ah, ben, allez, c'est Michel, à l'attaque.
Alors, la poésie portait à l'instant son regard sur des œuvres du passé. La thématique de la mort affleurait ça et là, dans des rêveries de crypte, l'évocation de gisants, morts en attente. Au cours de ses voyages à travers le monde, Francine Caron n'a pas manqué de faire halte au ghetto de Varsovie, à Auschwitz, sans oublier Oradour-sur-Glane. Et plus tard, elle va écrire « Shoah », un poème significatif de la volonté de ranimer le souvenir du génocide du peuple juif. Ce génocide, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, s'est trouvé, il faut le dire, plus ou moins occulté. Il n'était pas totalement oublié, non. Mais... Bon, sans doute à cause de l'accumulation des guerres qui ont suivi, finalement, la Première Guerre mondiale. Je me permettrai, si vous le voulez, d'en témoigner personnellement, puisque pour ma part, je suis né dans Paris occupé en 1942. À la libération de Paris, je n'avais pas encore 2 ans, donc j'ai évidemment mes souvenirs directs de cette période... se sont évaporés, mais toute mon enfance, j'ai entendu parler de ces années noires, de la vie quotidienne qu'on menait à Paris dans ces années-là. Bon, et étant enfant, je n'ignorais pas l'existence de des camps d'extermination, des chambres à gaz, etc. Seulement, tout cela restait, pour moi, enfant, lointain et vague. Les films qu'on pouvait voir étaient souvent des films de guerre, bien sûr, mais où on célébrait les combattants, mais où on n'évoquait pas le génocide lui-même. Et ce n'est que... Pour ma part, donc, dans l'année scolaire 1959-1960, j'avais donc 17 ans déjà, que j'ai pu voir vraiment ce que c'était, grâce à une projection du film « Nuit et brouillard », le film d'Alain Resnais, une projection qui a été faite au lycée à l'initiative de notre prof de philo, qui n'était autre que Georges Limbourg. Georges Limbourg, l'un des premiers surréalistes, poète, romancier, critique d'art, extrêmement influent. Il était lié à tous les grands peintres, disons des années 20 jusqu'aux années 60. Il est mort, Georges Limbourg est mort en 70, je crois, ou 71. Et les images de ce film « Nuit et brouillard » m'ont pour ma part extrêmement marqué, parce que on avait quelque chose, on voyait tout de suite ce que c'était. Faut pas oublier que dans les années 50, ce qu'on appelle aujourd'hui les médias n'avaient pas du tout la même forme. Hein. Il s'agissait que des journaux, du cinéma, pour ce qui existait comme film, et c'était pas du tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Voilà. Et cela m'a marqué, donc, d'une façon, je dirais, ineffaçable. Voilà, donc, ce poème Shoah, nous allons l'entendre, mais on va demander à notre ami Buffet de nous faire un prélude.
Corbeille de
Marthe.
Marthe.
Le travail crée la liberté. Si ces pièces sont...
Un froid sec, sans pleurs, de neige qui tomberait au fond du ghetto. Quand des premiers âges, quand du drap d'or au 20e, quand d'ignominie, tu entends, silence, le grésillement des chairs, les chiens de la haine. Jamais l'animal, honte soit sur l'homme, n'humilia sa proie. Peut-on pardonner au Moloch qui édifie système abyssal? Peut-on pardonner au Molosse si dépourvu d'humanité simple, sous-animal même, qui abat très proprement chacun des ch'touks, qui n'épargne rien, d'abord le vieillard, la femme vers la chambre à gaz, qui pend, décapite, expérimente, inocule, virus à cobaye, bête se déchire, lutte pour un beau désir, s'épargne à genoux, frima sur la plaine, und Arbeit macht frei, frei. Loi d'amour libère. Je suis désolée, je ne connais pas la langue.
Le travail rend libre, point d'interrogation.
Oui, c'est cette atroce inscription qu'il y avait à Auschwitz, je crois, à l'entrée d'ailleurs.
Quand à l'entrée, le train, sur la grille.
Voilà, il y avait cette.
En fer forgé.
En somme, la liberté par le travail. Transcription française.
Et surtout celui-là. Mais, alors, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais. Alors, ce sont des haïkus, et même si ça ne le paraît pas forcément, mais peu importe, un froid sec sans pleurs de neige qui tomberait au fond du ghetto. J'aime, pardonnez l'autosatisfaction, c'est de la poésie. Le reste, vous l'avez constaté, c'est précisément un constat. Hein, la poésie n'est guère présente. Peut-être Frima sur la plaine encore, qui voudrait dire la fuite. Mais, bon, c'est Adorno qui disait, peut-on écrire de... Enfin, ça a été dit 100 fois, Théodore Adorno, qui peut encore écrire de la poésie après les camps de concentration et encore d'extermination.
Il avait raison dans un sens, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut pas écrire la même poésie.
Voilà, c'est ça.
La poésie a probablement changé de
direction. C'est ça.
Il suffit de lire Paul Celan pour s'en rendre compte.
Par exemple. Alors, autrement dit, pour moi, ce texte est un texte pour dans 100 ans. Déjà, les survivants ne sont plus légion. Hein. Et quoi qu'étant... Colette, ta maman était d'origine juive, n'est-ce pas?
Ouais.
Voilà. Donc, je suis allée... Si. J'ai parcouru le camp d'Auschwitz le 12 juillet 1981, bien avant notre chère amie, hélas absente, mais ce sont aussi les vacances, bien avant notre chère amie Monique Velger Labidois. Et j'ai écrit quelque chose qui, je dis quelque chose, c'était très défectueux. Ce jour-là, en 81, ça s'appelait Hurler, parenthèse A, parenthèse la mort. Donc, soit hurler à la mort, soit hurler la mort. Bon, zéro. Donc, il m'a fallu 23 ans pour oser écrire ce texte-là. Le 27 janvier 2005, autrement dit, après avoir été... tout à fait bouleversé, comme le dit Michel, les médias étaient très différents Mais il est vrai qu'en 2005, nous avons pu revoir présenté à la télévision, par exemple, le Shoah de Lanzmann, hein, créé en 85. Et sur deux ou trois soirées, pour ne pas dire nuit, puisque c'est si long, si longue a-t-elle été cette extermination aussi. Très imprégnée, très marquée, faisant ma gymnastique, à l'époque où je me levais encore à 9h, ou 10h ou plus tard, donc ce froid sec, et puis peut-être prémices de neige, douce ampleur de neige qui tomberait au fond du ghetto, et ensuite j'étais emportée par quelque chose qui est une énumération. C'est l'un des procédés poétiques, mais plutôt du Moyen-Âge, etc. Et encore, Villon faisait beaucoup mieux, ou Agrippa d'Aubigné. Donc je n'en suis pas particulièrement fière, ou je ne me revendique pas, même si ce texte a pu être lu au mémorial de la Shoah. Mais autrement dit, je n'ai pas encore réussi à écrire un poème parce que non vécu du dedans, il faut le dire aussi. Même ayant vécu bien des drames, je n'ai pas vécu celui-là. Alors prenez-le avec indulgence.
Voilà, donc les œuvres sont de Maria Ahmadi Emdadian.
Maria Ahmadi Emdadian, qui est donc d'origine iranienne. Et il a fallu qu'elle se renseigne sur le net, parce que vous savez que la doxa de là-bas est de nier cette Shoah, précisément. Mais bon, elle a un mari, Emdadian, je ne sais plus son prénom, cet adorable, son prénom m'échappe, difficile à retenir d'ailleurs, donc monsieur Emdadian est d'origine arménienne, par conséquent, elle a une vision plus large des choses. Elle habite en France, à Antony, et voilà. Alors, chère.
Il y avait musique à nouveau ou pas c'est à la fin.
Oui. Oui, parce que. En plus, le choix, c'est beau. Le morceau est nostalgique. Et bon.
Merci à Xavier Buffet pour ses prolongements musicaux. Merci à Francine. Merci à Colette.
Merci à
vous. Et à Catherine.
Et donc, ce livre est riche de témoignages, de notes critiques, etc. Ça a dû être un sacré boulot à faire.
Ah, oui.
On a l'éditrice sous la main, elle va peut-être nous en parler.
Alors, pendant qu'elle se lève, je voudrais remercier toutes... Lève-toi, ma chère Martine, pardon. Je voudrais remercier vraiment très, très fortement, et en l'occurrence Roger Gonnet, ici présent, et chère Colette, que tu as invitée, pour le
mois de mai,
la prochaine
oui.
fois, le 25 mmh. mai. Mmh. Je voudrais remercier particulièrement mon cher Roger, mais aussi Martine, toujours notre éditrice, mais en l'occurrence nommée Mactia, Rebecca Gruel, qui ont bien voulu me donner, parmi d'autres amis, me donner de belles lectures, mais c'est aussi, vous les connaissez, Albaret, Guy Chatti, Chantal d'Anjou, Bernard Fournier, Anne Gary.
Ah, c'est pour moi.
C'est une amie à toi, tu me l'as fait connaître. Jean-Paul Giraud, Michel Lévy, Basia Miller, la traductrice, Marc Vaussion, ou Monique Labidoire. Donc ces belles personnes ont bien voulu me donner de très intéressantes notes muséales, comme on dit maintenant. Merci. Et merci.
Donc Martine, tu veux évoquer un peu la réalisation de ce livre?
Oui.
Oui, vas-y. Ah oui, bah vas-y.
Est-ce qu'on ne fait pas de commence pour finir?
Je parle très mal.
On ne peut pas faire de
non.
Alors voilà, je vous remercie.
À toi, Martine.
Non, je pense pas, oui, non. Francine se demandait si on faisait une pause, mais je pense qu'il vaut mieux continuer dans la... En continuité, il y a une cohérence, vraiment, donc je pense qu'il vaut mieux que tu interviennes. Chantal, après aussi, interviendra, bien sûr, pour le...
Nous montrera
voilà, ses œuvres.
Oui, ben je voudrais évoquer ma rencontre avec Francine Caron, qui a été déterminante pour que Voitissé devienne une véritable association éditrice.
Je ne le savais pas. Je sais savoir.
Je fais semblant de ne pas le savoir.
Non, franchement.
Je m'affirme en tant qu'association éditrice. Et donc, c'est fait. C'est fait. Surtout avec l'édition de ce... Surtout avec la sortie de ce... De cette... Bon, je vais lire, ça sera mieux. Nous avons publié 3 livres que j'ai apportés ici, donc 3 livres de Francine Caron. Le premier, c'était « Riches heures du sexe amoureux » avec des images de Marie-Thérèse Mécali et dans la collection « Coup du cœur ». Coup du cœur. Et puis, le deuxième, âmes animales avec des dessins d'Anne Gary. Ben, c'est toujours coup du cœur d'ailleurs. Voilà. C'est pour cela que Francine évoque Anne Gary qui n'est pas vraiment. Enfin, alors tous les gens que je publie sont mes amis, c'est formidable, tous les poètes et les artistes. Je suis très heureuse d'avoir tous ces amis-là. Donc. Oui, Anne Gary, elle est poète également, et elle a publié aux éditions Voitissé, c'est-à-dire, dans la collection C'est-à-dire, elle a publié Choses état, et puis d'autres, Confidences au poème, par exemple. Et donc, là, vous avez les numéros de la collection C'est-à-dire. Et en fait, le but, c'était vraiment de créer une petite collection accessible à tous de poésie. Alors, il y a « Hommage à Maria Callas » de Rebecca Cluel, un beau livre fait avec Rebecca. Donc, « Anne Gary », il y a « Estival » de Jean-François Forestier, vous voyez, qui est le président maintenant de Donnez-à-voir, dont je vous parlerai après. Sous la colline de Morgane Rivet, qui est un très beau livre sur l'enfance. Et bon, peut-être je vais faire vite. Écrire, c'est aimer. De Catherine Coq, ça c'est très beau aussi, dans la même collection. Et donc après, nous avons notre bibliophilie jubilatoire et bilingue, que moi j'appellerai, vous allez voir plus tard. Après, je me tairai. On a continué la collection, hein.
Oui, ah oui.
Ben, quand même. Après, je me tairai de Marie-Thérèse Schitz, qui est ici présente également, à côté de Rebecca.
Qui est là.
Ah, c'est vous.
Voilà.
Très bien.
Donc, je vais essayer d'être brève. Nous avons publié nos trois livres que j'ai apportés ici. Bon, le plus important, il s'en conteste, sa Bible jubilatoire et bilingue. Moi, je dis que c'est une Bible. Une Bible de bibliophilie dont nous avons parlé ici très, très justement avec M. Michel Passenet. Cela m'a demandé 3 ans de travail et une assistance à l'auteur pour les nouvelles technologies.
Auteur, oui, oui.
Pour les nouvelles technologies qui se sont enfin concrétisées l'année dernière. Une amitié née dans les livres, notamment avec Donner à voir dans la Sarthe, du temps où j'étais institutrice, qui a trouvé sa maturité avec ce magnifique ouvrage. Le travail du poète est considérable, c'est sa vie transposée sur le papier, juste sur le sujet, Laurent. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir accompli ce chemin avec Francine, au-delà de l'usure du quotidien, souvent dû à vivre. J'ai apporté 2 anthologies de Donner à voir, où nous sommes réunis, et avant de vous lire le poème de Francine dans Soleil, Soleil, que j'ai apporté. Ben oui, c'est pour ça que
j'aimerais mieux qu'il
fait très beau.
Du jardin. Les jardins.
Le jardin est difficile à lire. Hein. Oui, j'ai regardé, je sais très bien ce que tu as écrit. Donc, Soleil, Soleil, paru en 1998.
Il doit être épuisé quasiment, hein, souvent.
Non, on a encore.
Le soleil n'est pas
épuisé. Et c'est un très beau poème, un hommage à. Un fémage au soleil, à Ra. Donc.
Famage.
Donc, on est à voir dans la dernière anthologie parue en mars dernier et que j'ai apportée ici parce que moi aussi je suis dedans. Donc voilà. Alors que paraît la berce avoitissée également. Donc, vous voyez, on continue des belles publications avec des personnes très, très intéressantes, des artistes, des photographes. Et puis, dans le même élan poétique pour cette femme, haute en famage. Voilà, 20 ans entre ces 2 publications. 20 ans entre les 2 anthologies, donc Jardin, Jardin et Soleil, Soleil. Et puis nous avons une revue où également Francine a été de très grande une très grande présence dans les premiers numéros, enfin dans les numéros après le décès de Jean Laugier peut-être. Voilà, mais là elle nous a donné aussi un beau texte pour oui, je crois, hein.
C'est le numéro 30.
Non, pas dans celui-là.
Pas celui-là.
J'ai la beauté, elle a passé le numéro 29, mais le numéro 30, elle y est dedans, avec grand honneur.
Et ta revue est d'un prix très doux, quand même à 10 euros, il faut le dire. Hein.
Oui.
Pour un travail très impressionnant.
Merci, toi qui veux le c'est une association où moi j'aimerais que cette idée d'association, en fait, c'est important pour moi. Parce que c'est vraiment ne pas essayer d'être tout seul face à son travail, être son travail poétique, son travail d'écriture, essayer de se réunir au moins une fois par mois, ce qu'on fait à Montrouge, pour parler de sa création et avancer ensemble. Bon, c'est pas toujours avancer ensemble parce que Il paraît, j'ai écouté à la radio, j'ai entendu qu'il y en avait pour 40 ans d'individualisme, d'ego, de personnes, vous savez, avec le portable seulement, enfin d'identité très personnelle.
Les gens qui sont forts. Chaque personne, bien sûr, hein, ça.
Pourquoi 40 ans
40 ans comme ça.
Enfin, deux générations.
Ouais. Là, l'ego a toujours existé et il ne changera pas. Enfin, il existera oui, toujours. Enfin, je ne suis peut-être pas optimiste, mais... Enfin,
moi non plus, oui, il y en a des plus pessimistes que moi. Et donc, je veux aller contre ce mouvement-là, moi, en fait. Hein. Avec Voix tissée, je veux rassembler un peu la poésie, les poètes contemporains. Et aussi, on lit aussi des poètes de la résilience. Ceci dit, en passant. Donc, Francine Caron, qui avait écrit donc en 1998... Ah non, ben non, c'est pas possible ce que je dis. Non, c'était sorti en mai 2001. Ah, je sais pourquoi j'ai fait l'erreur. C'est parce que j'ai regardé dans Jardin Jardin.
D'accord.
Et Jardin Jardin, ben, il n'y avait pas de Francine Caron.
Peu importe, Jean-Martin.
Voilà, il est sorti en 98, le premier. Ah, oui. Voilà.
Ça n'a pas d'importance.
Donc, j'ai pris celui-ci. Soleil, soleil, oui, mais alors il va falloir me passer l'accent aussi, moi. Pour Monique Labidoire, Michel Lévy et leur André. Ra. Restez.
On retrouve l'Égypte, hein.
Dans l'aube, en attendant la part solaire. Que le jour s'accomplisse et la joie d'être humain. Fille ou sœur, frère ou fils de l'éclat. Sud-soleil, tu dilates dans le poudroiement des artères. Tu campes signe d'or sur la route. Tu es jusqu'à l'hostie. Rouge au point lumineux, il y a une erreur.
Non, lumineux.
Au point lumineux à l'offrande. Ouest, barque de soleil qui traverse les nuits, pour sans cesse renaître. Sphère et musique.
Lecce de Albas.
Oui. Les daubes en espagnol.
C'est d'après. Comment s'appelle cet artiste qui nous a quitté dimanche? C'est dimanche,
Georges.
Non, un artiste.
Claude Ribaud. Ah oui.
Claude Ribaud. En fait, c'est d'après Claude Ribaud, ça n'est pas une. Ça n'est pas tout à fait une imagination à moi. Hein,
Mais c'est vrai que moi aussi j'ai écrit Barque solaire.
Ah bah voilà.
Mais
voilà,
c'était pas
ça.
Dans celui-là.
Je l'avais pas mis. Non. Ce n'est pas celui que je préfère, mais enfin. Oui, Catherine, merci.
Je vous remercie.
Voilà, parce que.
Catherine, quelle est ta prochaine réunion?
Oui, j'ai pas fait d'annonce. Hein, je suis
le 24.
Le 24, il faut chercher.
D'accord.
Prends-le, on en reparlera avec. Prends-le si tu veux. Tu peux te charger.
Pas mouillé, j'ai un sac plastique. J'ai un train. Je vais là.
Oui, on se met en parle.
Bon, hein? Donc, je vais.
Bon, vas-y. Pas ton frein.
Merci, au revoir.
Le vendredi 24
mai.
Oui. Avec qui?
24.
Avec qui?
Sabine Malpéguin.
Et
Territoire du poème au François Copé. 15h30.
Bien, moi, je vous invite tous le 7 mai à Montrouge, de 18h à 20h, à la Maison des Associations. Nous recevons une poète qui est membre de l'association, qui écrit dans le Portulan et qui publie à compte d'auteur des poèmes remarquables. Voilà, et qui est, elle.
C'est vrai, fou.
Handicapé, parce qu'elle a, ma sœur est une schizophrène. Elle a été en film. Ah, elle a fait un film avec sa sœur qui a expliqué sa maladie. Et c'est vraiment très, très intéressant. Voilà.
Elle s'appelle comment?
Irène Philippa.
Merci, merci Martine. Francine, tu pourrais nous parler quand même des artistes avec lesquels
oui,
tu as. Voilà, c'est important.
Oui.
Puisque ce livre est. Tous tes livres, presque tous tes livres, ont été accompagnés d'un travail avec les artistes. Et nous avons la chance d'avoir Claire Denis avec nous. Donc je voudrais que vous
Chantal,
en parliez. Chantal, pardon. Ah. Chantal. On fond avec la cinéaste, excuse-moi. Chaque fois, je me fais avoir.
Alors,
voilà. Non, mais Chantal.
Oui.
Non, mais excusez-moi, vous ferez votre cuisine après. Hein. Francine, tu nous parles un petit peu quand même de ton travail avec les artistes.
Ah oui.
Est-ce que c'est les artistes que tu as sollicités qui ont travaillé au vu des textes?
Alors,
ou est-ce que tu as écrit des textes au vu de leurs œuvres?
Voilà. Ce sont des artistes. J'ai eu le bonheur en 2005 de connaître chaque éditrice à son propre charme ou génie d'ailleurs. J'ai eu le bonheur de connaître, qu'est-ce que je raconte, en 2000, Vandame Ouléac, que vous êtes un certain nombre à connaître, qui dirige donc les éditions Transigna, qui peut nous amener, enfin nous, de façon de parler, parce que mon poème est dessous, mais enfin, il y a l'artiste. Alors magnifique. En l'occurrence, en ce qui concerne la première dont je vous ai touché un mot, Maria Ahmadi, mais de temps à autre on met son initiale, parfois on supprime Ahmadi, parfois on met tout le mot, bon bref, tout le nom, je suis perdue. Elle a voulu, par exemple, donner un contrepoint complet sur le Taj Mahal, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Les gaufrages, oui,
oui.
Vous les voyez avec le contre-jour. Bon, c'est bien. Voilà, chose qui est assez étonnante. Elle a voulu donner un contrepoint à cette horreur de la Shoah par la plus grande beauté qui soit.
Alors, le Taj Mahal.
C'est le Taj Mahal.
Mahal,
oui.
C'est pas Shoah, là.
Et oui, mais c'est le contrepoint de Shoah.
Ah, d'accord.
Hein? Elle l'a réalisé combien d'années après?
Shoah.
Oui.
Oui.
Alors, nous, en fait, Shoah devait être illustré, j'aime pas ce mot illustré,
c'est en 2007.
Enluminé, illuminé. Ben, c'est ça, 2007, celui-ci de 2011, il me semble. Il y a le colophon, on doit pouvoir le savoir. Shoah, au départ, devait être enluminé, etc. Celui-ci de 2011, c'est ça. Donc, Maria a mis 4 ans à le créer. Première collaboration Shoah, deuxième celle-ci.
D'accord.
Pour l'instant, nous en sommes là et voilà. Mais c'est pour dire, vous retrouvez, oserais-je dire justement, le sens de la beauté perse, parce que nous sommes après tout avec une descendante des habitants de Suse, des Achéménides, etc. Donc, tout cela est fort beau. Il y a d'ailleurs dans l'un des triptyques, il y a la traduction arabe et elle n'a pas pu la reproduire par ordinateur, enfin c'est encore un autre procédé, et elle a tenu également à présenter en dessous de... Pardonnez-moi parce que je reprends mes esprits au fur et à mesure. Voilà. En dessous de ces beautés, on les voit malgré tout assez mal. Elle a tenu ici à reproduire une ligne en persan qui se trouve dans le... dans ce... on pourrait presque dire palais du Taj Mahal qui, comme vous le savez, est le grand œuvre du Shah Jahan. Veuf, privé de sa bien-aimée Mumtaz. Alors, en l'occurrence, pour m'arrêter une dernière fois, parce qu'il y a mille choses à dire, il est troublant de penser, par exemple, que ce Shah Jahan a œuvré à l'époque de Rembrandt chez nous. C'est toujours tout à fait étonnant. De même que on ne pouvait pas le dire, mais je profite pour le, quand même pour le dire ici, parce que j'en ai été enthousiasmée de découvrir ça dans la, cela dans la nuit, mais vais-je le retrouver, ça n'est pas sûr, si, très très vite. Il est très beau et très troublant, mais ça nous paraît déjà plus normal de mettre en miroir. Excusez-moi, parce que je cherche un peu.
Non, moi, j'aimerais que
tu... J'y arrive, je pense à nos... Oui, oui, mais c'est très beau aussi, parce que c'est un rapport...
C'est l'artiste qui a réalisé le, alors, le papier, enfin...
Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Oui, il y a aussi, oh, ben, il y a, tu sais, effectivement, le colophon. Le colophon reprend, enfin, c'est tout à fait magnifique. C'est quoi, ça, c'est du riz, je ne le sais plus, ça a été, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est du anemule, c'est du papier anemule. Parce que, exact, parce que, hélas, nos papiers des grands moulins, ont de plus en plus tendance à se raréfier, étant extraordinairement chers. Ou les papetiers disparaissant, on arrive encore à la suppression des plus grands artisans. Oublions cette parenthèse très grave d'ailleurs. Mais enfin bref. Alors malgré tout si, je voulais vraiment vraiment le dire parce que c'est une chose qui m'a émerveillée dans la nuit. En l'occurrence, la Diane Damnay qui vous a été lue, qui est en rapport avec Diane de Poitiers, donc la maîtresse de Henri II, comme vous savez, concurrente de Catherine de Médicis, eh bien, que vois-je tout d'un coup? Je plonge, puisque je n'ai pas Internet. Grâce à Dieu, si j'avais Internet, je ne me coucherais plus jamais. Là, ce serait définitivement terminé. Et vous n'auriez plus mon ombre près, enfin, ou mon voile près de vous. Donc, c'est assez extraordinaire quand même de voir que Louise Labbé est morte la même année que Diane de Poitiers, en 1566. Je me dis tout d'un coup, mais au fait, elles doivent être de la même époque. Eh, mais oui, extraordinaire. L'une, Louise Labbé, morte dans les Dombes, et Diane de Poitiers dans sa demeure donnée par Henri II à Annette, donc dans la banlieue, enfin dans l'île de France, en 1566, les deux. Bon, ça, c'est une petite parenthèse de l'interférence des temps, mais enfin, c'est tout à fait étonnant. Alors, donc, c'est ça, nous avons des papiers admirables, et il y a mille choses à dire sur Vandamme et Oléac.
Oui, non, mais moi, j'aimerais mieux que, quand même, comme Chantal est là, ce soit plutôt ta collaboration avec Chantal.
Mais tu as raison, mais tout se tient, c'est terrible. Tout se tient. Mais il faut, Chantal, que tu me remettes sous le nez. Tiens, il faut que tu me redonnes en Islande, par exemple, la petite Islande. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, ça va, oui. Et avec. Voilà. Alors, donc, Vanda, nous revenons quand même à Vanda, parce que bis, tout se tient. Vanda, cette partie, Mioléac, qui a un prénom polonais, mais qui est d'origine
roumaine,
a cette particularité de demander à ses artistes une édition qui est vraiment, on peut le dire, hein, magnifique, celle-ci, et d'autre part, ce qu'elle appelle une édition démo. Donc, comme Shoah. Autrement dit, il existe un Shoah que je n'ai pas apporté qui a ce format, et un format plus simple, mais remarquable quand même. Moins cher, il faut le dire, bien sûr. À création numérique, alors que, en ce qui concerne ceci, évidemment, il en va différemment. Alors, de sorte qu'avec ma bien-aimée Chantal, je peux le dire, enfin, comme mes artistes, mais je peux le dire aussi pour toi, Colette, parce que de manière plus modeste, quand même, tu m'as accompagnée. Vous n'avez pas. Tu m'as accompagnée dans ces éditions associatives Clapas. Tu as donc donné la première illustration de mon Norway, qui est donc un petit Norvège. Voilà, ceux qui
ça, c'est du temps où je faisais des dessins sur ordinateur.
Eh bien, c'est un travail remarquable. Alors, malheureusement, il n'y a pas de livre norvège tel que ceci, mais enfin, il y a déjà ce format. Alors donc, avec ma chère Chantal, je dois dire, nous devions faire un travail. Chantal, montre, s'il te plaît, les arbres.
Je me posais la question, effectivement.
Ah oui, oui, oui. Alors, nous avons créé ensemble avec un autre éditeur, nous avons créé Arbres Amants, qui est repris de ma Picardie, parce que je n'ai pas forcément dit que j'étais d'origine picarde. Voilà, bon. Montre-les, ma chère, montre-les une par une quand même. Ce sont les écorces, et non pas les écorchés, ce sont les écorces de Chantal, à partir de son rêve sur les arbres, c'est très beau. Et là, il n'y a pas d'édition démo. Bon. Et sur l'Islande, il y a la plus belle édition en coffret et l'édition démo. Voilà. Bon. Alors, en ce qui concerne... Tu me refiles, s'il te plaît, Colette, le jubile, s'il te plaît, parce que je ne sais pas tout de Chantal par cœur.
Ah, pardon.
Eh oui, bien sûr.
C'est un travail d'éditeur aussi.
De toute façon, elle parle.
C'est qui l'œil pour l'œil.
Alors Chantal est une peintre et graveur qui a bénéficié d'une formation aux ateliers de la ville de Paris à l'Académie Goetz.
Entre autres. L'Académie Goetz, ça fait pas partie des ateliers de la ville de Paris.
Alors la virgule, il aurait fallu mettre un point virgule. On corrige encore. Et tu as, peut-on dire que tu as appris la lithographie ou tu as amélioré, ta technique de lithographie chez Eva Largo?
Non, Emma Largou, c'était la sérigraphie.
Ton ami. Oh. Ah, pardon, tu vois. Ouais. Excuse-moi. Non, mais là, c'est la vatique qui tombe. Vous me pardonnerez. Voilà. Mais montre, c'est plus intéressant quand même. On voit ton œuvre, c'est tout toi. C'est tout toi.
C'est aussi de la. Une écorce d'arbre. C'est le vrai. C'est une photo.
Chantal a un très beau rapport avec les arbres, parce qu'on donc les écorces, et tu travailles aussi sur du bois, avec du bois.
Oui, je fais ça.
Mais tu es très modeste, mais ô combien. Autrement dit, tu fais de la xylographie, même si tu n'aimes pas qu'on dise que tu es xylographiste.
La gravure sur bois.
Voilà. Et tu as des boulots somptueux, etc. Il a dû passer le boulot, je ne sais plus. Alors Chantal a illustré Martine Mathiar Rigaud-Sastre et elle a illustré aussi devant nous Raymond Ferrandi qui se cache derrière son bijou.
J'ai fait ça avec elle.
Avec elle, tu as fait ceci. Montons-le. Je vais le passer peut-être un instant. Enfin, fais comme tu veux d'ailleurs, fais comme tu veux. Oui, alors nous devions créer une Islande, donc aux éditions L'œil pour l'œil, celle-ci. Et puis les choses ne se sont pas faites comme désirées. Et après tout, Vanda était très intéressée par ce travail singulier, très fort, que Chantal vous a montré, mais que j'ai plaisir à vous remontrer aussi. Tu as une puissance de rendu de la matière. Ah oui. Et. Alors, en l'occurrence, comme tu le disais, chère Colette, c'est vrai que j'ai eu un mouvement de balancier. Vanda m'a fait connaître tel ou tel, et j'ai fait connaître tel ou tel à Vanda.
D'accord.
Par exemple, si je prends, il se trouve que en première page sont indiqués mes artistes, mais entre guillemets, et puis les commentateurs généreux se trouvent en dernière page. Bon, en l'occurrence, Hélène Baumel qui a regretté de ne pouvoir venir, elle a un dévernissage, il y a un autre mot, dévissage, enfin bon. Ouais. Calu, son ami, a des problèmes de santé.
En ce moment à Taylor.
Ah oui, c'est ça.
Taylor.
Fondation Taylor, elle te l'a écrit, c'est ça. Pierre Cayol, qui habite en Provence et qui se déplace relativement assez rarement. Alors, je connaissais Eliette Calu, grâce, et le nom vous dit évidemment quelque chose, grâce à Juliette Darles.
Oui.
Voilà. Oui, j'ai été invitée en d'autres temps quand j'eus le Prévillon en 77. J'ai été invitée par elle à Aubigny-sur-Ner, Nereux, c'est ça. Et c'est alors que j'ai connu Eliette Calu. Quant à Cayol, il m'a été présenté, révélé par l'éditeur Alain Benoît. Ce sont, hélas, ces très chers passeurs de poésie, ces truchements, nous ont quittés, que ce soit Alain Benoît ou que ce soit Juliette d'Arles, hélas. Alors, Chantal Denis, chère Chantal, je t'ai connue grâce à une autre Chantal, Chantal Robillard. Robillard, voilà. Laquelle Chantal a eu un coup de cœur pour ce Taj Mahal qui était exposé au salon de la gravure à sur la place Saint-Sulpice. Et son étude se retrouve là, comme quoi j'ai décidément beaucoup de grâce à donner, que ce soit aux uns et aux autres. Bon, c'est un livre, bien sûr, que j'ai composé, j'ai travaillé par jalons, non pas, enfin, comme on pourrait peut-être le croire, par affreux égo surdimensionné, mais peut-être surtout pour me connaître, pour voir où j'allais, etc. Il y a eu un 15 ans de poésie en 81. Entre deux, avec quelqu'un disparu aussi, et Jean-Paul Mestas avait eu la gentillesse de me recevoir à Jalon, un autre Jalon.
Je disais de ça, c'est un travail d'identité, c'est différent.
C'est bien dit, très bien dit. Très, très bien dit. D'identification.
Quelquefois, on ne peut pas, on peut pas suivre tout le temps une personne comme ça, parce que c'est un travail immense.
J'écrivais beaucoup du temps de mon bien-aimé, ça c'est sûr, par exemple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Enfin, alors entre deux, il y a eu l'oreillette, deux oreillettes, la 35 et 37, c'était en 2001 et en 2002. Alors, me montrant en 69 à l'occasion de mes premières lectures, et passablement émacié après la mort de mon père, j'y repensais. Bon, là, c'est en sauvage, un autoportrait. Et là, c'est assez curieux parce que, dans le fond, c'est un rapport. Vous avez vu comme j'étais frappée par la mort, et ça n'a rien d'étonnant après. Par les morts, après ces expériences de Bas-sur-Mer et de l'après-guerre. Donc, après la mort de mon père et après la mort de ma mère et de mon bien-aimé la même année. Donc mon père en 68 et ma mère et mon bien-aimé en 79. Mais la vie revient grâce à la poésie. Voilà toute la bande d'amis poètes avec Chinonis, avec les Crassas, enfin bon, avec Jacques Torrent, etc. C'était déjà au marché de la poésie en juin 2001. Voilà, et donc en quelque sorte.
On abrège là, excuse-moi.
Il faut qu'on abrège, il faut qu'on arrête. On va arrêter.
Il va bientôt plus.
Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Voilà, il y a mille autres choses à dire, chers amis.
Voilà, c'est pour ça.
Alors voilà, notre cher public va venir regarder
les œuvres de les œuvres de Chantal.
Enfin, c'est pour dire que vraiment, enfin, le mot est connoté, mais j'ai plaisir à l'utiliser. Entre nous, on pourrait dire une communion, et puis si on ne veut pas dire communion, on peut vraiment dire ô combien des familles. On ne peut pas dire une famille, parce qu'on est quand même très différents, mais nous sommes des familles qui nous aidons à vivre, en fait. Qui nous aidons à vivre, qui nous écoutons, qui nous corrigeons, qui parfois nous bouleversent, et tant mieux.
Merci Francine, beaucoup, merci. Pour cet après-midi. Merci Michel.
Très précieux. Voilà. Très bien. Alors, Michel. Oh, à mes jalons. Il faut que ça fasse plaisir de ma présentation.